Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Le sommet de la communauté d'États latino-américains et caraïbes, la CELAC, a eu lieu cette semaine à Buenos Aires et s'est conclu par la signature d'un document par les représentants des 33 pays présents, dans lequel l'engagement envers la démocratie et la promotion de l'intégration régionale a été souligné. Ils ont également ratifié la revendication de souveraineté de l'Argentine sur les îles Malouines. Le sommet a marqué le retour du Brésil au sein de la CELAC, un organisme régional dont l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'était retiré. Dans ce cadre, les présidents de l'Argentine et du Brésil, Alberto Fernández et Lula da Silva, ont convenu de s'orienter vers une monnaie commune, ce qui permettrait de stimuler le commerce entre les deux pays sans avoir à utiliser le dollar pour effectuer les paiements et, de cette manière, d'alléger le poids des réserves internationales nettes de la Banque centrale. Le projet ne signifie pas le développement d'une monnaie unique, comme dans le cas de l'euro, mais plutôt la recherche d'un dénominateur commercial commun qui évite les goulots d'étranglement dans le commerce entre les deux pays, qui s'est élevé l'année dernière environ 28,5 milliards de dollars, bien qu'avec une balance déficitaire pour l'Argentine d'environ 2,25 milliards de dollars. Partageons des rapports de France 24 et TV5 Monde.
Hymne et tapis rouge à la descente de l'avion, Lula est arrivé hier soir à Buenos Aires. Le président brésilien a choisi l'Argentine pour sa première sortie internationale. Il doit y rencontrer ce lundi son homologue Alberto Fernández avant le sommet demain de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, la CELAC, qui regroupe tous les pays américains à l'exception du Canada et des États-Unis. Et on en parle avec vous, Gaspard Estrada, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Un premier déplacement à l'étranger, oui, mais un premier déplacement régional aussi, il faut le noter. Quel est le message, Gaspard Estrada, selon vous?
C'est reprendre la tradition diplomatique brésilienne qui avait toujours accordé à son voisin argentin la primeur du premier déplacement du président brésilien. Donc de ce point de vue-là, c'est le retour d'une vieille tradition diplomatique brésilienne.
On va chez un allié qui, en plus, on le rappelle, Alberto Fernández avait visité Lula quand il était en prison. Un petit mot aussi du contexte dans lequel ce déplacement intervient. Évidemment, c'est après les événements du 8 janvier, quand les pro-Bolsonaro ont tenté de prendre les lieux du pouvoir à Brasilia. Là aussi, il y a un symbole ou pas?
Oui, le symbole, c'est de renouer avec les traditions diplomatiques, avec la présence aussi de la première économie de la région dans son environnement immédiat, alors que l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avait délaissé la région. Ce déplacement ne se limite pas à l'Argentine progressiste d'Alberto Fernández, mais aussi sera complété par un déplacement en Uruguay qui est dirigé par un gouvernement de droite. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un signal très clair de vouloir renouer avec l'Amérique du Sud.
Et de parler donc avec tout le monde. D'un point de vue économique, vous le mentionnez donc, Argentine, l'un des premiers partenaires. Quel est l'intérêt tout simplement aujourd'hui de se rapprocher à nouveau de Buenos Aires de ce point de vue économique?
L'Argentine est le troisième partenaire commercial du Brésil, donc de ce point de vue-là, il y a énormément d'échanges. Il y aura d'ailleurs une rencontre avec des hommes d'affaires des deux pays à l'occasion de ce déplacement bilatéral. Et il est surtout important pour le Brésil que l'Argentine retrouve non seulement le chemin de la croissance, mais surtout réduise son inflation, que son économie se restructure. Et ça, c'est tout à fait important pour la relance de l'intégration régionale et notamment du Mercosur.
Donc ça, c'est pour la partie bilatérale, peut-on dire. D'un point de vue régional, il y a donc ce sommet demain de la CELAC, organisation que Jair Bolsonaro avait donc quitté lui en 2020 au motif qu'elle soutenait les régimes de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela. Aujourd'hui, la présence de Nicolas Maduro, mais aussi du Cubain Díaz-Canel, ça ne gêne pas Lula parce qu'il est à gauche ou bien parce que, tout simplement, il lui faut aussi composer avec ces dirigeants-là s'il veut réinsuffler quelque chose dans ces organisations régionales?
Je pense que c'est surtout la deuxième, votre deuxième option qui tend à se confirmer, dans le sens où la CELAC est née justement du souhait à l'époque du gouvernement de gauche l'époque Lula, quand il était président en 2010, mais aussi des gouvernements de droite, de Uribe, par exemple, en Colombie, de créer un forum rassemblant l'ensemble des pays latino-américains et caribéens, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Et donc, de ce point de vue-là, le fait d'inviter ces dirigeants va dans le sens de retrouver un mode de fonctionnement minimal de cette organisation qui a besoin d'être institutionnalisée, de ne plus dépendre de la diplomatie présidentielle. Et il me semble qu'il s'agit là d'un des enjeux de ce sommet.
En fait, à quoi sert ce genre d'organisation régionale? Quel est l'intérêt là pour le Brésil en particulier?
Le Brésil souhaite se réengager en Amérique latine, en Amérique du Sud. De ce point de vue-là, des organisations telles que l'UNASUR, qui a un volet politique, mais aussi un autre volet, c'est de coordonner des politiques publiques, notamment en matière de santé ou en matière de défense, eh bien, il est tout à fait important, notamment suite à la pandémie, de pouvoir coordonner des politiques publiques au niveau régional, par exemple en matière d'achat de vaccins, quelque chose qui n'avait pas été à l'œuvre lors de la pandémie et qui aujourd'hui, grâce à un UNASUR renouvelé, pourrait avoir là des débouchés beaucoup plus concrets.
L'UNASUR, c'est l'Union des Nations Sud-Américaines. Des institutions avec la CELAC qui ont été affaiblies à mesure que des gouvernements conservateurs s'installaient en Amérique latine. Aujourd'hui, qu'on a un retour des gauches, même si ce sont des gauches qui sont très hétéroclites, est-ce que cela peut permettre de redonner un second souffle à ces organisations?
Oui, c'est tout l'objectif justement de ce sommet à Buenos Aires, mais je note comme aussi le fait que Lula va non seulement se déplacer en Argentine, donc un gouvernement de gauche, mais complétera ce déplacement par une visite bilatérale en Uruguay, qui est gouvernée par la droite. Et de ce point de vue-là, le message est très clair. C'est-à-dire, certes, il s'agit de faire de l'intégration régionale avec des pays réputé proche sur le plan politique, mais surtout le plus important, c'est que cela dure et qu'il y ait une institutionnalisation de ces mécanismes d'intégration régionale. Et de ce point de vue-là, la tâche ne sera pas simple, mais il me semble qu'il s'agit bien là de l'objectif de Lula.
D'autant qu'aujourd'hui, de nombreux pays sont affectés par des crises diverses. Je pense par exemple au Pérou, d'un point de vue social et politique. Il y a aussi le Chili, avec la situation de Boric, qui n'est pas forcément évidente. Cela peut gêner ces différentes crises que traverse aujourd'hui le continent sud-américain?
Oui, cela peut gêner, mais cela surtout traduit une insatisfaction des latino-américains par rapport à leurs élites politiques, mais aussi leurs élites économiques. Cela aussi se traduit par de très fortes alternances aujourd'hui au sommet des États latino-américains, d'où le besoin d'institutionnaliser ces processus pour éviter qu'une éventuelle alternance à la tête de l'État se traduise par la fin de ces mécanismes d'intégration régionale.
Pour le premier voyage à l'étranger du nouveau président brésilien, Lula choisit l'Argentine, signe de rapprochement entre les deux pays qui veulent lancer une union monétaire en Amérique latine.
En choisissant l'Argentine pour son premier déplacement à l'étranger, il veut sceller l'amitié retrouvée avec son voisin, deuxième économie d'Amérique latine, après la période de tension sous Bolsonaro. Lula participe également à un sommet régional de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, la CELAC, une communauté de 33 pays que le Brésil avait quitté en 2019. Mais la grande annonce attendue, c'est effectivement celle d'un projet d'union monétaire, d'abord entre le Brésil et l'Argentine, mais ouverte à d'autres pays d'Amérique latine. Les deux pays veulent étudier tous les paramètres nécessaires à une monnaie commune, des questions fiscales au rôle des banques centrales. C'est ce que confirme le ministre de l'économie argentin au Financial Times ce matin. La future monnaie qui remplacerait le real brésilien et le peso argentin a même un nom, elle s'appellerait le sourd.
Donc l'idée, ce serait de faire une monnaie commune un peu à l'image de la zone euro?
C'est exactement l'objectif. Il existe plusieurs unions monétaires dans le monde. L'euro, évidemment, ici en Europe. Le dollar caribéen. Dans une certaine mesure, on peut parler aussi du franc CFA, même si d'autres projets existent à la fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Un tel projet en Amérique latine représenterait environ 5% du PIB mondial contre 18% pour la zone euro et 25% pour le dollar américain. L'idée, déjà lancée dans les années 90, avait été détaillée par Fernando Haddad, le nouveau ministre de l'économie brésilien, dans un article qu'il avait coécrit. Il explique qu'une union monétaire permettrait de dynamiser le processus d'intégration régionale et de renforcer la souveraineté monétaire des pays d'Amérique latine, article écrit l'année dernière.
En gros, le but de ces pays, c'est d'essayer de s'affranchir de ce dollar américain dont ils sont très dépendants aujourd'hui.
Une dépendance qui est parfois vue comme un danger. Hein. Dans son article, Fernando Haddad explique par exemple que la guerre en Ukraine a montré à d'autres pays que les avoirs en dollars pouvaient être rayés d'un coup de crayon si les États-Unis jugent leurs avoirs menacés. Et donc ces pays ne sont pas toujours d'accord avec cette politique-là. Même chose pour les politiques monétaires de la Réserve fédérale qui sont taillées pour les États-Unis, mais pas forcément pour d'autres pays. Et donc tout l'objectif d'une union monétaire sud-américaine serait de réduire cette dépendance face au dollar.
Et ce projet il s'apparente quand même à un certain défi.
D'un côté, cette monnaie unique pourrait effectivement simplifier, même booster les relations commerciales entre les deux pays et plus largement en Amérique latine. Hein. Mais ce n'est pas un projet sans embûches, il faut le dire. D'abord, la rivalité entre ces deux grandes puissances économiques d'Amérique latine reste forte. La situation économique entre les deux pays est finalement assez différente.
Ah,
une hyperinflation, on le voit en Argentine, près de 100%. Alors qu'au Brésil, elle reste somme toute maîtrisée par rapport à ce qu'on connaît ailleurs dans le monde. Surtout l'Argentine, elle a traversé de grosses crises économiques ces dernières années. Le pays a fait défaut deux fois sur sa dette en moins de 20 ans, ce qui est un record mondial. Et il doit encore plus de 40 milliards d'euros au FMI. Et donc la Banque centrale du Brésil, il faut le dire que pour le moment, elle ne voit pas le projet d'un très bon œil. Même, elle compte plutôt même le freiner. Ceci dit, ici en Europe, l'union monétaire, elle a mis quand même 35 ans à devenir une réalité. Donc le projet sera peut-être lancé cette semaine par Lula et son homologue argentin, mais il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir payer effectivement dans les magasins en Argentine, au Brésil ou ailleurs, avec cette nouvelle monnaie, le sourge, de la même manière qu'on paye en euros en Europe.
La situation est toujours très tendue au Pérou, où la répression des manifestations populaires fait rage avec plus de 50 morts. Camille Boutron, chercheuse à l'INSERM, analyse la situation pour France 24, tout comme Roman Perdomo, doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal, sur Radio France Internationale.
Tir de gaz lacrymogène contre jet de pierre. On est là à Cusco, dans le sud du Pérou, où la situation était encore extrêmement tendue hier jeudi, pendant que des milliers de manifestants opposés à la présidente Dina Boluarte défilaient dans la capitale. Une grande marche baptisée « Prendre Lima », suivie par Juliette Chénion.
Des dizaines de délégations du sud, du centre et du nord du pays dans la capitale. C'est le plus gros rassemblement depuis le début du mouvement il y a un mois. Emer vient de Cusco, à plus de 1000 km de là.
Nous, les populations de province, des villages, on ne nous écoute pas, on ne nous considère pas. C'est pour ça qu'il a fallu venir dans la capitale aujourd'hui.
Ces manifestants arrivent pour beaucoup de communautés rurales et pauvres. Dans le cortège, des habitants de Lima ou des districts alentours les soutiennent. Des syndicats et des partis politiques présents également. Et toujours les mêmes revendications, explique Magdalena, agricultrice d'Ayacucho.
Que Dina Boluarte renonce, que ce congrès de corrompus s'en aille et qu'on ait une nouvelle constitution.
Beaucoup de pancartes font référence à la répression. Pas un mort de plus, demande Luis.
Il y a deux ans, il y avait eu deux morts à Lima et le président avait renoncé. Elle, la présidente, a tué plus de 40 personnes dans le sud du pays. Qu'elle soit condamnée.
À Lima, les milliers de manifestants n'ont pas tous suivi le chemin prévu. De nombreux tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu. 10 000 policiers étaient déployés ainsi que des véhicules blindés à certains croisements et plusieurs manifestants ont été blessés.
Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
On l'a entendu, les manifestants ne sont pas prêts à renoncer. Quelle a été la réponse des autorités à cette mobilisation ?
Eh bien, la réponse n'a pas varié et elle fait la une d'une bonne partie de la presse nationale ce matin. Dina Boluarte, la présidente par intérim, a pris la parole pour à nouveau condamner ces manifestations qu'elle qualifie de violentes et elle n'a pas hésité à s'en prendre aux manifestants. On l'écoute.
A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia ?
À tous ceux qui marchent tous les jours, qui vous finance ? Parce que vous ne travaillez plus, quel argent ramenez-vous dans vos foyers ? Vous êtes en train d'abandonner vos familles pour aller manifester dans la rue. Et dans vos protestations, il n'y a pas d'agenda social dont le pays a besoin. Dans vos protestations, vous demandez des choses que vous savez être en marge de la loi. Vous voulez briser l'état de droit. Vous voulez créer le chaos et le désordre. Et dans ce chaos et ce désordre, prendre le pouvoir de la nation, vous avez tort.
Tomar el poder de la nación. Están equivocados.
Alors, d'après Perumbe Diuno, dans sa déclaration télévisée, la présidente péruvienne menace de représailles les protestataires qui font usage de violence, même si elle se dit prête au dialogue avec les autres. Alors, si Dina Boluarte dénonce des actes de vandalisme qui auraient été préparés en amont, notamment pour occuper 3 aéroports du pays, pas un mot sur les victimes de ces manifestations, lamente la Repubblica. Le quotidien rappelle que le bilan est désormais de 50 morts après le décès ces 48 dernières heures de 3 manifestants supplémentaires. 3 personnes tuées par balle, précise le quotidien.
Merci Roman. Et bonjour à vous, Roman Perdomo.
Bonjour.
Doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous avez, je le précise, réalisé une thèse sur le Pérou. Merci d'être en ligne avec nous du Canada. Quand on entend les manifestants d'un côté et de l'autre, donc la réponse de la présidente, est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'on est là dans une situation totalement bloquée ?
Alors on peut dire en tout cas qu'on est dans un dialogue de sourds. Voilà, les parlementaires ne se mettent toujours pas d'accord sur un avancement des élections et le gouvernement, en fait, il refuse de faire la lumière sur les circonstances des morts dans les manifestations, mais aussi de reconnaître les marcheurs comme des interlocuteurs légitimes.
Vous le précisez, demande de nouvelles élections, demande de démission aussi de la présidente Boluarte. Roman Perdomo, les revendications scandées là, dernièrement par les protestataires, elles ont bien changé, hein, ça il faut le préciser, depuis le début du mouvement, on le rappelle, 7 décembre et juste après quand le président de gauche, Pedro Castillo, a été destitué puis incarcéré à la suite de ce qu'on a appelé un auto-coup d'État.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un mois, les demandes, elles étaient plus éclatées. Elles apportaient essentiellement leur soutien au président déchu, donc Pedro Castillo. Et à présent, en fait, dans le contexte de répression exacerbée, elles demandent principalement, au contraire, la démission de la présidente Boluarte et la convocation immédiate de nouvelles élections.
Cette crise, est-ce qu'on peut dire finalement que c'est aussi le reflet un peu du fossé qu'il y a entre la capitale et puis les provinces plus pauvres du sud, parce que c'est de là, hein, majoritairement, d'où venaient hier les manifestants.
Oui, tout à fait. Et même au-delà du cas de Dina Boluarte, je pense qu'on peut parler de déconnexion de la classe politique, mais elle n'est pas nouvelle au Pérou. La crise politique en fait, que traverse le pays depuis 6 ans, elle est catalysée par des hommes et des femmes politiques de mauvaise qualité, qui parviennent plus facilement à se mettre d'accord sur leurs intérêts personnels que sur un projet pour le pays. Et le dialogue social aussi, il est rendu difficile par une culture politique en fait, qui criminalise les formes d'opposition et de dissidence depuis les années de conflit armé en 1980, mais aussi par un contexte de racisme aussi, de classisme structurel de la société péruvienne, qui contribue en fait à ce que les revendications de l'autre, elles ne soient pas considérées comme légitimes, ce qui régénère une réponse par la violence.
Oui, on le rappelle, hein, Dina Boluarte, hier, elle l'a dit, vous avez tort. Alors, qu'on comprenne bien pourquoi cette porte totalement fermée, en plus de la répression policière, mais... Dites-nous, pourquoi, selon vous, il y a finalement cet entêtement qui conduit à cette impasse que vous décrivez ?
C'est compliqué, mais comme je vous disais, je pense qu'il y a un problème conjoncturel de crise politique qui a quand même affaibli la capacité à gouverner de l'État péruvien. Et il y a aussi des raisons plus profondes qui viennent expliquer cela. Comme je vous disais, une culture politique qui criminalise les formes d'opposition et aussi un racisme, un classisme structurel dans la société péruvienne. Mmh. Voilà, au-delà du personnage et de la situation actuelle. Ils sont dans l'œil du cyclone de la crise.
Dites-nous, elle continue tout de même, la présidente, à appeler au dialogue, on l'a dit. Concrètement, est-ce que là, le gouvernement a encore une carte à jouer face à l'ampleur de cette mobilisation ? Pour le dire autrement, est-ce que le gouvernement peut bouger ou pas ? Qu'en dites-vous ?
Alors, effectivement, pour l'instant, il est en dissonance avec les revendications des manifestants, mais il peut encore toujours changer de cap et apporter une solution politique à la situation. Donc, par exemple, en reconnaissant les manifestations comme légitimes et surtout en donnant des garanties qu'il s'agit d'un gouvernement de transition vers des élections imminentes. Les Péruviens, ils font plus confiance à leurs autorités. Ils attendent au moins des gages qu'elles vont s'en aller et bien sûr que des comptes soient rendus pour les 50 morts depuis un mois.
Mais vous dites qu'au moins ils reconnaissent la légitimité des manifestations, mais les manifestants, on les a bien entendus, ils ne veulent pas bouger, ils veulent des élections tout de suite, maintenant le départ de Dina Boluarte, elle se refuse à dialoguer, ça ne fait qu'apporter de l'eau à leur moulin. En fait, qu'est-ce qu'il peut advenir? Comment est-ce que vous voyez, vous, la suite de ce mouvement?
En fait, le mouvement, il risque de continuer à prendre de l'ampleur. Voilà, c'est ce qu'on a vu ce dernier mois, car les manifestants, ils font plus confiance à leur politique. Donc, ni à Dina Boluarte, ni aux parlementaires, qui ont seulement 9% d'approbation et qu'on soupçonne de vouloir s'accrocher au pouvoir.
Et la situation au Pérou, on continue d'en parler avec vous, Camille Boutron. Vous êtes sociologue et chercheuse à l'INSERM, autrice notamment du livre « Femmes en armes ». Alors, on vient de le voir, la contestation ne faiblit pas en cette journée nationale au Pérou. Dina Boluarte a-t-elle les moyens de rester, selon vous ?
En tout cas, elle n'a pas l'air d'avoir l'intention de partir, puisque même si elle a appelé à une trêve nationale, qu'elle a demandé pardon, qu'elle a un petit peu reculé, notamment sur l'entrée de la police à l'université de San Marcos, qui a eu lieu samedi, qui était un événement extrêmement violent et qui rappelle vraiment les périodes les plus noires du Pérou, elle reste quand même dans un discours où les violences seraient seulement la part de personnes les plus radicales et le fait qu'elle démissionne ne changerait en rien les dates d'élections anticipées.
Est-ce que, selon vous, justement, Dina Boluarte assume ses responsabilités dans les morts, hein, dans les 46 morts au moins qu'il y a eu hein, là, depuis le début des manifestations en décembre? Elle est poursuivie d'ailleurs hein, pour génocide avec d'autres hauts responsables du Pérou.
Alors oui, elle est poursuivie. L'enquête va durer 90 jours, donc il va falloir un petit peu attendre de voir comment ça évolue. En termes de responsabilité, non, elle ne les assume pas réellement, notamment dans le message à la nation qu'elle a donné mardi au peuple péruvien. Elle expliquait quand même que la plupart des morts étaient dus à des armes artisanales, donc pas la police. Ce qui est complètement contraire à ce qu'ont dit les légistes hein, qui ont pu examiner les corps. Donc non. Et elle a parlé d'une police irréprochable. Donc non, elle ne se responsabilise pas du tout pour cette violence.
Camille Boutron, qui sont les manifestants dans les rues de Lima aujourd'hui ?
Alors les manifestants dans les rues de Lima aujourd'hui, c'est toutes ces populations marginalisées, invisibilisées, dans un Pérou où il faut comprendre que là, ce qui est en train de se passer au Pérou, c'est l'explosion après des discriminations qui doivent être comprises dans une histoire plus large et plus longue hein, du pays. On a des populations paysannes, andines, de descendance autochtone qui sont historiquement marginalisées, qui ont été maintenues en marge des redistributions qui auraient dû être faites par rapport à la croissance du pays. Paysannes, mais pas toutes. D'ailleurs, c'est dans les régions sud, andines sud du pays hein, qu'ont commencé les grosses manifestations. Historiquement, c'est toujours par là que ça se passe, et donc qui sont arrivés jusqu'à Lima, puisque Lima concentre tous les pouvoirs hein, culturels, économiques, politiques, et donc c'est toutes ces populations-là.
Eres encantador, dominas la ocasión, consigues lo que quieres, no hay otro como vos.
L'actrice, chanteuse, compositrice, dramaturge et scénariste Alex Pandev présente à Buenos Aires la comédie La vida no viene sola, La vie ne vient pas seule, qui parle de l'amour aujourd'hui sous toutes ses formes, vu sous les griffes et le regard acide d'une Parisienne. Née à Tel Aviv, elle a vécu en France dès l'âge de 17 ans, s'est installée en Argentine il y a 5 ans et vit depuis entre deux continents. Elle-même nous invite à la rejoindre les mercredis de février sur la scène de Borges 1975 dans le quartier de Palerme.
Bonjour, bonjour Eric, je suis Alex Pandev. Je suis actuellement à Buenos Aires, je vis sur les deux continents, les deux capitales, un pied à Paris, un pied ici à Buenos Aires. Là, j'ai lancé depuis très peu de temps une nouvelle comédie que j'ai écrite cette année qui s'appelle La vida no viene sola. C'est une comédie mi-chantée, mi-jouée. Je suis accompagné par un pianiste magnifique qui s'appelle Ricky Prost et je travaille sous la direction de la grande, l'incroyable Lia Géline qui fait partie du patrimoine théâtral ici, porteño. Elle a fait entre autres l'énorme succès de Toc Toc et elle a à son acquis près de 100 mises en scène de comédies. Donc c'est vraiment un ticket gagnant. C'est une comédie excessivement piquante, relevée, très almodovarienne. Le personnage du reste de cette fille est très almodovar. Elle est très, très haute en couleur, très, très excessive. et c'est un plaisir indécent que j'ai donc à l'interpréter tous les mercredis soirs au théâtre Borges, qui est au 1975 Borges à Palermo Soho, près de la place Sorano à Palermo. Voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est folle d'amour, qui est amoureuse de l'amour, qui pour l'amour va se compromettre pas mal sur ce qu'elle est profondément et qui va se rendre compte que le type ne la mérite pas. Et à partir de là, elle va devoir reconquérir sa liberté, reconquérir son espace, reconquérir sa féminité et reconquérir son identité. Et donc voilà, donc c'est vraiment une histoire pour toutes les filles et toutes les femmes qui recherchent l'amour et tous les mecs qui ne savent pas comment faire pour le qui sont vraiment des cons en face, quoi. Je veux dire, pas des cons, mais je veux dire des mecs qui ne savent pas comment faire pour séduire les femmes et qui très souvent passent à côté, quoi. Donc c'est une comédie hormonale, mais où la testostérone est très très présente, furieusement hormonale, comme je dis, et puis très parisienne dans un certain endroit, puisque c'est mon regard de parisienne, acide, sur justement cet amour ou ce désamour, enfin voilà. Donc c'est très drôle, les gens rient beaucoup, et puis à la fois, il y a des moments d'émotion, et de voir les gens à la fin partir avec autant de contentement, naturellement pour moi c'est une grande satisfaction. Voilà, donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis en Instagram, Locura de Alex. Locura de Alex, en un seul mot. Voilà. Alors, je vous attends tous, naturellement, tous les mercredis, au Borges, 1975 Borges, à Palermo Soho.
Se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.